On commence une nouvelle année, on commence une nouvelle mini-série de prédications. On va prendre trois dimanches pour regarder l'Église. Et ma tâche ce matin, ça va être particulièrement de regarder la question des groupes de maisons. Et je vais cadrer ça dans un plan plus large, on va dézoomer sur en fait quelle est la vision de Fireplace, quelle est la vision de notre Église. Ce matin, on va pouvoir en parler et regarder quelques manières dont on va l'exprimer, le cadrer un petit peu différemment de comment on l'a fait par le passé. Mais il y a une chose qui ne change pas, si vous avez déjà fait un apéro d'accueil, vous reconnaîtrez cette phrase, être une église de disciples, hein, être des disciples qui font des disciples d'autres personnes, c'est ça la vision, c'est ça le mandat, c'est ça la raison d'être de Fireplace. Nous voulons être une église dans laquelle chacun d'entre nous au maximum peut ressembler autant que possible à Jésus et qu'on puisse le faire dans chaque partie de notre vie, partout où on est, pas seulement quand on est rassemblé en tant qu'église, mais que ce soit au travail, à la boulangerie, que ce soit dans notre école, etc. On veut pouvoir ressembler à Jésus et rayonner autour de nous. On veut que ça se fasse pas seulement quand l'église est rassemblée, mais que ce soit tout le temps, à chaque instant. Et on veut pouvoir le vivre pas juste en solo, mais que ce soit quelque chose de collectif, une église où ensemble on manifeste Jésus, donc Jésus partout, tout le temps et ensemble. Mais on a un problème, on a un grand problème quand on dit que c'est ça la vision de notre église, c'est que nous habitons dans une ville qui ne ressemble pas du tout à cette description. Et nous vivons dans une ville, nous vivons dans une culture comme dans n'importe quelle culture du monde qui nous déforme. Hein. Elle nous déforme de trois manières particulières ici dans un monde occidental, dans une grande métropole au XXIe siècle. Elle nous déforme par le sécularisme, c'est-à-dire une vision du monde qui voit les choses à part de l'existence, de l'action et de la volonté de Dieu, un monde qui est vu et qui est compris sans Dieu. Si Dieu n'existait pas, les choses ne changeraient pas. Rien ne serait différent dans ma vie. Si ça c'est le cas, c'est que je suis marqué par le sécularisme. La deuxième chose qui nous déforme, c'est l'individualisme. Hein ? J'entretiens un mode de vie qui est marqué par une référence à moi-même, à mes propres désirs, à ma propre définition de qui je suis et qui je veux être. L'individualisme nous marque, il est partout autour de nous. Même dans les films Disney, surtout dans les films Disney. Et enfin, on est déformé par le consumérisme, c'est-à-dire notre volonté, ce qu'il y a dans notre cœur, nos désirs, une volonté qui recherche avant tout le confort pour moi. Et j'arrange ma vie et j'arrange mes relations selon ce qui est le plus arrangeant et le plus convenant pour moi. Mes amis, mes frères et mes sœurs, ces choses ne sont pas anodines. Ces choses nous détruisent. Elles ne semblent pas si graves que ça en surface, mais à force et à la longue, dans nos cœurs, dans nos vies, elles nous déforment hors de ce qu'on devrait être et elles nous forment vers quelque chose qu'on ne devrait pas être. Je vois des vies démolies à cause du fait qu'on se soumet consciemment ou inconsciemment à ces choses, qu'on ne cherche pas à prendre le contre-pied de ces choses. Voici ce que dit Stanley Auerwas dans son livre « Étranger dans la cité ». Les gens modernes cherchent habituellement la liberté en brisant les restreintes et les engagements. Je dois être moi, je dois être authentique. Plus on pourra se libérer de ses parents, de ses enfants, de son conjoint, de ses devoirs, plus on sera libre d'être soi-même, nous dit-on. Et si notre véritable identité était constituée des matériaux de notre vie communautaire et non pas de cet individualisme qui nous détruit. Et on se dit, oui, mais est-ce que c'est si grave que ça ? Eh bien, remarquez dans un monde qui a poussé l'individualisme et le consumérisme et le sécularisme jusqu'au bout, qui atteint des avancées extraordinaires au niveau de la science et au niveau de la technologie, au niveau des possibilités. En même temps que ça, on nous a promis l'Eldorado. Et qu'est-ce qu'on nous a apporté ? Une épidémie d'anxiété plus grande que ce qu'on n'a jamais connu auparavant. une incertitude par rapport à notre vie, par rapport à qui est-ce que je dois être en fait. Je me définis moi-même, mais comme on m'a enlevé tous mes repères et que je suis la somme totale de ce que je dois être, je ne sais plus qui est-ce que je dois être. Donc, incertitude et confusion. Une inconsistance, parce qu'on a détruit tous les repères qui ont été posés par nos pères. Une solitude. On parlait d'endroits où il y a une densité de population très forte. Il n'y a pas d'endroit en France où il y a une densité de population plus forte qu'en Île-de-France. Et il n'y a pas d'endroit en France où les gens se sentent plus seuls qu'en Île-de-France. Ces choses ne sont pas neutres. Ces choses nous détruisent. Et je vois des vies de gens détruits par ces choses. Et c'est absolument terrible. Notre ville, ne nous y détrompons pas, notre ville nous déforme. Et ces choses nous déforment. Elles sont un faux évangile, elles ne sont pas la vérité. Concernant la solitude et l'isolation, Stephen Hume, dans son livre Why Cities Matter, pourquoi les villes sont importantes, il parle de cette réalité de l'isolation, de la solitude. Il dit « Les gens cherchent à réaliser leurs rêves en s'installant en ville, mais ils le font seuls. » L'évangile, lui, crée une communauté qui est la solution à la solitude dans nos villes. Et donc alors que la cité, alors que la ville nous déforme, l'évangile et l'Église est appelée à nous contreformer face à cette déformation du monde, ou à nous réformer, à nous conduire à avoir une mentalité, un mode de vie qui est différent de celui que nous enseigne et que nous assène le monde. Hors de la mentalité du monde, voilà la mission et le mandat de l'Église, et dans la mentalité du royaume pour que nous ressemblions à Jésus-Christ. Pour que nous ressemblions à Christ, pour que nous soyons la manifestation de tout le contraire de ce que notre ville déforme en nous. Une communauté d'hommes et de femmes contreformés pour ressembler à Christ. Alors, comment est-ce que ça se manifeste dans le concret de nos vies ? Vous voyez ces personnes qui sont là derrière moi, je suis sur le point de vous les introduire et je tiens à dire que toute ressemblance à une personne connue est vraiment, mais authentiquement, purement fortuite. Et pourtant, ce serait aussi normal, alors que je l'ai décrit, que nous nous retrouvions tous, d'une façon ou d'une autre, dans un ou dans plusieurs de ces personnages, parce que ces personnages sont représentatifs de ce que la culture façonne, de ce qu'elle déforme en nous. Alors, je commence en vous présentant Lucas. Lucas, c'est monsieur vie spirituelle à fond. Vie de prière, beaucoup de temps dans le silence, dans la parole de Dieu, toujours entouré de bouquins. C'est à ça que ressemble sa vie avec Dieu. Il a une connaissance de Dieu et de la Bible très très forte, une vie de prière très profonde, mais elle se fait seule. Elle n'a aucun impact autour de lui dans sa vie et sur les personnes avec qui il est, si il est même avec des gens. Je vous présente maintenant Achille. Alors Achille, c'est monsieur mission à fond. Il va à toutes les sorties d'évangélisation. On va le retrouver en train de haranguer les foules dans les rames de métro. Son fil de réseaux sociaux est couvert de tentatives de parler de sa foi à tous ses contacts non chrétiens. Sauf qu'en fait, ça fait belle lurette que ses contacts non chrétiens ne regardent même plus ses pages de réseaux sociaux. Alors je vous présente maintenant Anne-Marie. Elle, c'est Madame Communauté à fond. C'est la personne que vous connaissez dans l'église, elle prend des cafés avec tout le monde, toujours à inviter les gens, toujours en train de téléphoner, en train d'appeler, elle parle à tout le monde de sa vie, tout le monde la connaît, elle connaît tout le monde. Mais on se rend compte en fait que dans ces conversations, on parle pas vraiment, elle ne parle pas vraiment de ce qu'elle vit avec Dieu, parce que la réalité, c'est qu'elle ne vit pas grand-chose en fait avec Dieu. Elle va parler de sa carrière, de ses courses, des gars, parce que voilà les choses en fait qui la fascinent plus que Dieu en fait, en fin de compte. Alors je vous présente maintenant Eric et Léontine. Alors Eric et Léontine, ils aiment la Bible. Ils sont attachés à leur église, ils accueillent même un groupe de maisons chez eux. Formidable. Et dans ce groupe de maisons, ils ont invité tous leurs amis, des gens qui leur ressemblent exactement. Ils ont des enfants en bas âge et figurez-vous que tous les gens dans leur groupe de maisons aussi ont des enfants en bas âge. Ils ont un petit peu le côté bobo parisien et ça tombe bien. Bah, tous les autres dans leur groupe aussi ont le petit côté bobo parisien. Ils ont failli récemment quitter leur église parce que leur église a changé de pasteur. Et le problème, c'est que le nouveau pasteur, il raconte moins de blagues en début de prédication que l'ancien pasteur. Et il est un petit peu plus vieux que l'ancien pasteur. Il leur ressemble un petit peu moins. Du coup, ils ont réfléchi à quitter leur église. Et après, ils se sont dit qu'ils avaient la flemme de chercher une nouvelle église, donc ils sont restés. Ils ont une vie de foi, ils ont une vie d'église, mais en fait, ils sont profondément nombrilistes. La vie consumériste, en fait. Je vous présente maintenant Benji. Alors Benji, il est conducteur de louanges, ultra doué. Il partage sa foi avec lui de façon très naturelle, de façon très aisée. Il va fréquemment, dans sa vie, voir des gens convertis. Et puis, une fois qu'il a vu des gens convertis, eh ben, il les baptise. Une fois qu'il les a baptisés, eh bien, il fait leur suivi. Il se met en tête de leur apprendre tout ce que lui sait sur Dieu et sur la vie chrétienne. Et donc, il leur apprend à prier, comme lui. Il leur apprend à lire la Bible, comme lui. Il leur apprend, eux aussi, à partager leur foi, comme lui. Mais alors, par contre, être au service des frères et sœurs, passer du temps avec eux, encourager les nouvelles personnes qu'il a connectées à Dieu à recevoir quelque chose de la part d'autres personnes que lui-même dans l'Église, ça ne lui traverse même pas l'esprit, parce qu'en fait, pour Benji, bah, les gens dans l'Église savent bien moins bien faire que lui. En fait, il est marqué par une sorte d'héroïsme individualiste. Et je vous présente enfin Daphné. Alors, mademoiselle Daphné, ultra altruiste, ultra active, voire même activiste dans le fait de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Et non seulement elle le fait elle-même, mais elle emmène plein de gens de l'église aussi à le faire avec elle. Elle est super forte pour motiver les gens, des personnes dans son réseau à travailler avec elle pour le bien de la société. Mais quand on creuse, on se rend compte qu'en fait, ces bonnes œuvres n'inclut jamais le fait de parler de Jésus, de parler de sa croix, de parler du péché, de parler de l'enfer, de parler de choses de ce style-là, les choses qui nous font un petit peu moins plaisir dans notre société séculariste. Et en fait, on se rend compte que bah, même au niveau de ses valeurs, les siennes ne sont pas vraiment les valeurs de Christ, c'est les valeurs humanistes de la société ambiante. Les choses que Jésus dit qui vont dans le même sens que l'humanisme ambiant, elle est très à l'aise avec, elle est très à l'aise même de les assumer dans le nom de Jésus. Par contre, les choses que Jésus dit dans sa parole qui concernent par exemple la sexualité ou l'avortement ou les idoles de notre société, eh ben, elle les ignore de façon un peu plus convenable. Elle fait son marché dans les textes bibliques, certains qui lui parlent et qu'elle adore, et puis d'autres, bah, elle va un petit peu les laisser de côté parce qu'elle lui semble un petit peu trop de mauvais goût. Et en fait, quand on creuse, eh ben, Daphné, elle est profondément séculière, elle est marquée par notre âge. Alors pourquoi est-ce que je vous montre tous ces profils de disciples de Jésus incomplets, immatures ? C'est pour vous montrer l'importance, pour devenir des personnes qui ressemblent toujours plus à Christ, de se laisser interpeller par trois axes de notre vision en tant qu'Église. Alors jusque-là, et c'est ça quelque chose qu'on fait un petit peu évoluer, on va en parler un peu différemment qu'on en a parlé par le passé. Vous avez sans doute, si vous avez fait un apéro d'accueil, tous entendu les mots « up »,« in » et « out », la relation à Dieu, la relation envers les autres, la relation envers l'extérieur. Mais ce qu'on veut faire avec David, c'est qu'on veut approfondir notre compréhension de ce que c'est que l'Église. C'est quelque chose qu'on sent qu'on a reçu en tant qu'ancien. On veut réussir à contreformer chaque personne au sein de notre ville, à commencer par chacun d'entre nous au sein de l'Église. Et donc, pour ça, on a voulu approfondir et exprimer de façon un peu plus concrète, peut-être mettre des mots un peu plus clairs sur ce qu'on veut être et ce qu'on veut vivre. Le up, aujourd'hui, à Fireplace, on va commencer à en parler de façon plus concrète avec ces mots-là. Réformation spirituelle. C'est ça qu'on veut, en fait. C'est de ça qu'on a besoin. Une vie qui se laisse modeler par Jésus pour que nous endossions tous ses valeurs et sa façon d'être, que nous soyons un peuple qui veuille être là où Dieu est, connaître la présence de Dieu dans mon quotidien, aimer ce que Dieu aime, penser comme Dieu pense, vouloir ce que Dieu veut à travers une connexion, un approfondissement, une étude, une soumission à sa parole et une vie marquée par le Saint-Esprit, sa présence au quotidien, l'expression des dons spirituels dans ma vie, dans mon groupe de maison, dans le culte, etc. Parole et esprit comme les outils de la réformation spirituelle. Et c'est ultra important parce que le monde veut faire de nous des personnes sécularisées et l'Église est appelée à contrer le sécularisme et à nous conduire à avoir une vie et une vision qui sont saturées de Dieu, plutôt que saturées par une vision du monde à part Dieu. Le « in », on va désormais y faire référence en parlant de vie communautaire. Ça donne plus de concret encore. Qu'est-ce qu'on veut dire par « in » ? On veut dire maintenant, et on va parler de cette manière-là à partir de maintenant, vie communautaire à l'Église, une existence, un quotidien qui se vit au contact d'autres membres de l'Église et qui cherche vraiment à connaître les autres et à être connu par eux, à aider les autres et à se laisser aider par eux, à encourager les autres et à se laisser encourager par eux. C'est ultra important parce que le monde nous pousse de plus en plus à l'individualisme, à compter sur soi, à se considérer indépendamment d'un groupe dans son ensemble et à se définir soi-même plutôt que de se définir en référence à une communauté, à un corps auquel on appartient. Et le out, on va en parler avec ce vocabulaire de la mission sacrificielle. Ça donne plus de corps, plus de concret encore à ce que c'est et ce que ça demande de nous aussi. Hein, on se met au service du monde. Et on le fait, et on est appelé à le faire, et de plus en plus, aux dépens de notre confort personnel, parce que nous existons pour être en bénédiction pour le monde autour de nous. Et c'est ultra important, parce que ce monde fait de nous des consommateurs. On nous pousse à nous voir et à nous comporter comme des consommateurs, comme des personnes qui vivent pour eux-mêmes, en vue de nous doter, hein, pour moi, à titre personnel, de choses qui vont m'apporter à moi confort et sécurité. Et regardez ce qui se passe quand on n'accentue qu'un seul de ces aspects. Ceux qui n'accentuent que le côté réformation spirituelle finissent par ressembler à notre cher ami Lucas. Et l'église idéale pour Lucas, c'est un monastère. Ceux qui n'accentuent que le côté mission sacrificielle, comme Achille, eh ben, ils finissent par bâtir une église qui ressemble un peu à une mission commando. C'est ça, l'église idéale pour eux. Et ceux qui n'accentuent que le côté vie communautaire finissent par bâtir une église comme notre cher ami Anne-Marie, une sorte de club social vaguement christianisant. Donc voilà ce qui se passe quand on n'accentue qu'un seul de ces trois aspects. Donc en avoir un seul de ces trois, clairement, c'est sûr que ça ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe quand on en a deux sur les trois ? Donc on les a déjà vus, les trois premiers. Qu'est-ce qui se passe quand on a la formation spirituelle et la mission sacrificielle, mais qu'on n'a pas la vie communautaire ? On se retrouve avec des Benji, en fait. Parce que l'individualisme n'a pas été réglé dans son cœur. Ils ne font pas des disciples de Jésus qui connaissent la vie en Église, la vie en communauté, comme Jésus, lui, l'a fait avec ses disciples. Benji n'est redevable qu'envers lui-même. Il se définit lui-même. Et ça crée un déséquilibre total. Héroïsme individualiste. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a la mission sacrificielle et la vie communautaire, mais qu'on n'a pas la réformation spirituelle? Eh bien, on se retrouve à être comme Daphné, des activistes du social, hein, un social qui est défini selon le monde. Et en fait, on ferait tout aussi bien de s'engager dans le CCAS de notre quartier, à devenir membre d'un parti politique, ou à être activiste dans une asso. Et ce n'est pas pour nous décourager de ce genre de vie dans la cité, absolument pas, c'est des bonnes choses, mais il faut simplement qu'on sache que ce n'est pas ça la mission particulière de l'Église de Jésus. Et surtout, en ne faisant que ça, on se retrouve à défendre plein de causes, mais pas celles qui font la distinctivité du message chrétien au sein d'un monde séculier qui rejette Dieu. Et enfin, quand on a La formation spirituelle et la vie communautaire, mais sans mission sacrificielle, on se retrouve avec une église d'Éric et de Léontine. En fait, la question principale qu'on se poserait si on voulait bâtir l'église comme aimeraient le faire Éric et Léontine, c'est le même genre de question que se poserait un gérant de centre commercial. C'est des gens super, ils sont dynamiques, etc. Mais le genre de question qu'on se pose pour bâtir une église comme eux, c'est celle-ci. Comment est-ce que je fais pour moi et pour ma famille pour m'assurer qu'on passe le meilleur moment possible dans l'église? Et forcément, quand on bâtit l'église comme ça, eh ben, on devient résistant à tout ce qui va à contre-courant de mon confort. Et donc, les choses plus exigeantes, comme notamment le fait d'aller parler avec des gens qui ne sont pas comme moi, ça ne semble pas exigeant, mais dans un monde individualiste comme le nôtre, être avec des gens qui ne sont pas comme nous, c'est une des choses qui nous déplace le plus, qui nous dérange le plus, en fait. Et c'est inconfortable. Parler, servir des personnes, avoir une vie de mission, une vie pour chercher à faire connaître Jésus au plus grand nombre, toutes ces choses-là ne sont pas incluses dans la vision d'Éric et Léontine. Ils ont une certaine piété, oui, mais ils sont nombrilistes. Et si je fais un diagnostic de nous aujourd'hui à Fireplace, je dirais que notre risque principal, ce serait sans doute d'être un petit peu trop Éric et Léontine. Un petit peu dans l'ensemble, ce n'est pas le cas pour chacun d'entre nous, mais dans une vision d'ensemble de notre Église, aujourd'hui, moi, c'est ça que je dirais. Un peu trop frileux et réfractaire à voir et à vivre comme une Église, comme un peuple qui est appelé à suivre Dieu dans sa démarche de mission envers le monde. Mais on a aussi dans l'Église peut-être certaines personnes qui se retrouvent plus dans les Benji, les Daphné, peut-être même Achille, Lucas ou Anne-Marie. Et en se disant ça, ce n'est absolument pas un jugement. On est tous à des stades de maturité différents. Et comme je le dis, on vit dans une ville qui met la pression sur nous, sur tous ces aspects-là. Et c'est normal qu'à un moment donné, si on n'y fait pas attention, on se retrouve à être plus ou moins affecté par une, deux, voire même les trois de ces choses. D'ailleurs, si on voulait résumer le sermon sur la montagne qu'on vient d'étudier, on pourrait résumer l'enseignement de Jésus à ces trois choses. Réformation spirituelle, vie communautaire et mission sacrificielle. J'espère qu'alors que je dis ces mots et que vous pensez au sermon sur la montagne, vous pouvez identifier, ah oui, tel passage, ah oui, tel autre, ah oui, ils sont tous inclus dedans, et plus ou moins n'importe lequel des passages dans le sermon sur la montagne, on pourrait les caser dans un de ces segments de notre vision. En fin de compte, qu'est-ce que ça donne quand on a ces trois choses? Quand nous contreformons nos cœurs par rapport à toutes les idoles que notre société cherche à déformer en nous, nous croyons que ça nous conduit à un discipulat sain et complet et à un discipulat impactant qui fait une différence autour de nous. Un ensemble de membres qui font une différence dans la ville dans laquelle Dieu nous a placés, dans le monde vers lequel Dieu nous a appelés. Or, pour ça, nous avons besoin de vivre ces trois choses et pas qu'une seule ou deux d'entre elles. Alors, prochaine question. Je crois que j'ai inversé mes slides. Comment faire? On a un véhicule majeur, essentiel, pour vivre ça. Et c'est de ça qu'il est question dans mon message ce matin. À Fireplace, on appelle ça des braises. C'est un petit peu le cœur du réacteur. Ouais, non, je crois juste que j'ai une slide qui manque. Non, j'ai une slide qui manque, tant pis. C'est pas grave, je le ferai sans slide, c'est pas bien compliqué de toute façon. Les braises, c'est quoi? Les braises, c'est un plus petit groupe que ce que nous vivons ici au culte. Et le culte, David va en parler dimanche prochain comme le deuxième véhicule majeur pour nous permettre de vivre ces trois choses. Mais ces trois choses, on est appelé à les vivre au sein de nos braises. C'est quoi les braises? C'est une façon de vivre au quotidien, dans la vie de tous les jours, ce que le culte nous permet de vivre comme une sorte de temps à part. On comprend que le culte, c'est un temps qu'on met à part, mais on est appelé à être des disciples de Jésus partout, tout le temps et ensemble. Et donc pour ça, les braises sont profondément importantes pour vivre ça. Le culte, c'est vital. C'est comme un repas qu'on prend. Ça nous donne le nutriment nécessaire. Mais les braises aussi, c'est vital. C'est comme notre respiration. C'est pas un temps mis à part, c'est tout le temps. c'est tout le temps. C'est une communauté à laquelle on appartient, comme on va le voir. Et puis, alors que le culte peut parfois et de plus en plus être un contexte dans lequel on ne peut pas bien connaître tout le monde, et parfois on voyage loin même pour venir pour certains, les braises, c'est plus à proximité, c'est plus à taille humaine. Donc, il y a un côté au quotidien pour les braises, il y a un côté vital dans ce qu'on vit dans les braises, et il y a un côté à proximité. Voilà ce qui définit ce que sont les braises, et surtout, plus que ces trois choses-là, une braise, c'est biblique. Acte 2, versets 42 à 47. Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre, qui vient d'apporter la première prédication de l'histoire de l'Église, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et donc ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de signes et de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Waouh ! Incroyable ce texte, incroyable ce qu'a vécu la première Église. Et on voit que dans cette première Église, il y a des moments où les 3000 vont tous ensemble au temple, et puis là, on peut un peu plus passer incognito, mais ils se retrouvaient aussi dans les maisons. Hein? Et c'est dans ces maisons qu'on voit beaucoup de la vie active de l'Église primitive. Et alors, on donne déjà beaucoup de temps et on va prendre beaucoup de temps dans les temps à venir pour creuser bien plus profondément l'accent réformation spirituelle. Dans un sens, la semaine de jeûne et prière qu'on a fait en début d'année, les méditations en commun qu'on a fait pendant l'Avent étaient une sorte d'avant-goût. Oui, c'était fait exprès d'avant-goût du genre de choses qu'on aimerait impulser dans l'Église dans les temps à venir pour le côté réformation spirituelle. Toute une série de prédications qui vient sur le Saint-Esprit. Enfin, toutes ces choses-là, c'est pour travailler le côté réformation spirituelle. On veut creuser ça à fond. Le côté mission sacrificielle, on a le groupe de travail sur l'évangélisation qui est en train de nous préparer quelque chose aux petits oignons. John et toute l'équipe ont présenté une sorte de vision à l'avance de leurs travaux à un petit groupe de leaders qu'on a rassemblés. On a tous trouvé ça formidable, on est resté sans voix, c'était excellent. Ils vont présenter ça au forum d'église, donc soyez présents au forum d'église. Beaucoup de temps va être donné pour qu'on puisse regarder ce dans quoi Dieu est en train de nous appeler au niveau mission sacrificielle. Et donc moi aujourd'hui, alors que je parle des braises et en lisant ce texte d'Acte 2, 42, je vais me focaliser sur l'accent vie communautaire, d'accord ? J'ai pas le temps de tout développer ici, j'ai pris tellement de temps à parler de cette façon de voir, de cadrer, de comprendre notre vision en tant qu'Église. J'ai plus énormément de temps pour parler des braises et de la vie communautaire, mais j'aimerais mettre l'accent lourdement pendant ces quelques prochaines minutes qui nous restent pour parler de la vie communautaire à laquelle Dieu nous appelle. Et donc, mon premier point est celui-ci. Les braises... oui, c'est un peu inquiétant quand je dis mon premier point après 20 minutes de prédication. J'essaie de finir en 40, ok ? J'essaie de finir en 40 minutes. Mon premier point est bien celui-ci. Les braises ne sont pas une activité à rajouter à son agenda. Les braises sont une communauté à laquelle on appartient. Dans la Bible, on a tellement de commandements sur ce qu'on est appelé à vivre les uns avec les autres. Dave Holden, quand il était avec nous en novembre dernier, a prétendu que 58 fois dans le Nouveau Testament, on a la phrase « les uns, les autres » qui vient. Alors, je n'ai pas envie de contredire le leader apostolique de notre famille d'église, mais je suis allé compter. J'en ai trouvé que 53. Voilà. Peut-être qu'il a une meilleure Bible que moi. Peut-être que je ne sais pas compter. Mais d'un côté, que ce soit 58 ou 53, même si c'était que 28, c'est étonnant comme quantité de fois que ce mot est là. Et la Bible, par cette cinquantaine de commandements explicites de vivre les uns avec les autres, et par l'exemple de ce que nous voyons dans Acte 2, dans Acte 4, dans tellement d'autres endroits dans le Nouveau Testament, la Bible indique que la vie chrétienne, que le discipulat chrétien se vit en communauté. Alors, question, avec qui vivre ces commandements les uns les autres. Et c'est tout l'intérêt d'une braise, en fait. C'est tout l'intérêt d'une braise. On peut soit garder ces commandements à l'échelle de toute l'Église. Hein. Aimez-vous les uns les autres. À l'échelle de toute cette assemblée, pour moi, ça ressemblerait au fait de ne pas dire de mal de gens dans leur dos. Ça ressemblerait au fait de prendre de quelques nouvelles de mes amis, de sourire aux gens. Et à l'échelle de l'Église, j'aurais obéi au commandement « Aimez-vous les uns les autres ». C'est trop dur, c'est trop exigeant. Je n'ai pas assez de jours ou d'heures dans ma semaine pour le faire bien pour nous tous. Par contre, avec un groupe plus petit, avec une braise, nous n'allons pas devenir des disciples de Jésus saints et impactants si nous n'appartenons pas tous à une communauté plus restreinte de disciples avec qui nous vivons notre vie. Hein, c'est pas juste question d'aller à une réunion. Et à ce sujet, d'ailleurs, il faudrait qu'on arrête de dire « je vais à la braise » ou « je peux pas ce soir, j'ai braise ». Une braise, c'est pas une réunion. Une braise, c'est un groupe qui se réunit. Pas pour dire qu'on se réunit pas, bien sûr qu'on se réunit. On dit pas « j'ai famille ce soir ». Non, je vais au repas de famille, mais j'appartiens toujours à une famille, que ce soit un père, une mère et des enfants, ou mes parents, si je suis célibataire, ou mes sœurs, je fais toujours partie d'une famille. Donc oui, nos braises se réunissent chaque semaine ou une fois toutes les deux semaines, mais ces réunions sont là pour entretenir le lien communautaire qui est supposé exister aussi en dehors de nos réunions. Et donc on en vient à notre deuxième point, à quoi ressemble la vie communautaire en braise. Alors, deux mots, en fait, qui m'aident à résumer ce qu'on voit dans Actes 2, 42 à 47. Partage et mutualité. Regardez à quoi ressemblait l'Église primitive. Et notez d'ailleurs que les apôtres, quand ils ont décidé de bâtir l'Église comme ça, quand ils se sont dit, bon, on a 3000 convertis sur les bras, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Voilà comment on organise l'Église, voilà ce qu'on impulse dans l'Église. Ils le font en réponse à un commandement de la part de Jésus qui était celui-ci. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et donc, dans ce texte d'Actes 2, 42 à 47, on voit réformation spirituelle, vie communautaire, mission sacrificielle. Ils sont tous présents dans Actes 2, 42 à 47. Et notamment, le côté vie communautaire, il est présent partout dans ce texte. Et donc, faire des disciples, ça ressemble vraiment à ces trois choses-là. Verset 42. Ils persévéraient dans quoi ? La communion fraternelle. Ils le faisaient persévérer dans la fraction du pain. Dans les maisons des uns et des autres, versets 42 et 46. Ils se soutenaient mutuellement au niveau très concret, au niveau très pratique, versets 45. Et leur vie était partagée, elle était commune. Ils ne considéraient pas que ce qu'ils avaient leur appartenait en propre, mais plutôt, ils s'assuraient que tous avaient leurs besoins pourvus. Ça, c'est acte 4, versets 32 et 34. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut vivre ce genre de choses à l'échelle d'une braise dans une ville comme Paris en 2024? Il faut que je prenne les nouvelles habitudes. Bien en 2024. Quelques idées. La première, alors oui, vous avez vos réunions, mais les membres de vos braises, invitez-vous les uns les autres, chez les uns les autres, en dehors de vos réunions. Cherchez à mettre une intentionnalité plus grande au développement d'un lien fraternel et amical avec les gens de votre braise, même si ce n'est pas les gens naturellement avec qui vous voudriez passer du temps dans l'Église, parce qu'ils ne sont pas comme vous. Mais soyons moins Éric et Léontine et soyons plus des disciples saints et impactants. Mais on les aime, Éric et Léontine, ils ont leur place à Fireplace, mais il faut qu'ils deviennent plus des disciples saints et impactants. Deuxième chose, peut-être une fois de temps à autre en tant que braise, organisez-vous pour aller vous voir après le culte pour un temps plus informel. C'est quoi l'intérêt de ça? D'une part, c'est pour le plaisir de prendre du temps ensemble, mais aussi alors qu'on se voit peut-être un dimanche après-midi, alors qu'on a tous été présents au culte, ça permet aussi aux enfants de participer à ces temps. Parce que souvent, nos réunions de braise, dans nos semaines assez chargées, on se réunit en semaine. Et donc, c'est souvent, pour les familles nucléaires, il y a le papa qui y va ou la maman qui y va, ou parfois l'un, parfois l'autre. Et les enfants ne peuvent pas y aller. Et c'est toujours un papa ou une maman, un sur deux, qui vont, le fait de prendre un temps le dimanche après-midi, ça rend beaucoup plus plausible le fait d'avoir tout le monde qui est là. Et le fait d'inclure aussi les enfants dans ces temps en braise, ça donne aussi la possibilité à ces enfants de faire partie de la communauté. Et c'est l'occasion pour ceux à qui ces enfants n'appartiennent pas, d'aimer et de prendre soin aussi et d'avoir de l'intérêt pour les enfants des gens dans notre braise. Donc ça peut être quelque chose qu'on peut imaginer faire. C'est que des idées. Je ne suis pas en train de prescrire ça à toutes les braises, mais prenez du temps en braise cette semaine ou la semaine prochaine, si vous ne vous réunissez pas cette semaine, pour dire ces quelques idées. Est-ce que celles-ci ou d'autres, on pourrait les avoir pour renforcer notre lien communautaire? Troisième chose, intéressez-vous de façon concrète à la vie des personnes dans votre braise. Et ça peut passer par plusieurs choses, quelques petites idées. La première chose, c'est que si je fais partie d'une braise, je vais partager mes défis, ce qui se passe dans ma vie. Je vais m'ouvrir, je vais un peu me livrer, pas juste rester privé. Deuxième chose, peut-être, mettez chaque membre de votre braise sur la liste des gens pour qui vous priez. Peut-être que vous avez une liste comme celle-là. Si vous n'en avez pas, créez-vous-en une. Une liste de gens pour qui vous priez. Mettez chaque membre de votre braise dessus. Et quotidiennement, priez pour les gens dans votre braise. Ça renforce fortement le lien communautaire. Troisièmement, si quelqu'un vous a partagé des nouvelles, un défi, quelque chose qui traverse, demandez-leur de leurs nouvelles. C'est ça aussi de s'intéresser de façon très concrète à la vie des gens. On m'a dit, franchement, c'est difficile au travail, j'ai des collègues qui sont archi-critiques. Peut-être quelque chose qu'on pourrait faire, c'est se dire, est-ce qu'une fois par semaine, sur ta pause déjeuner, on s'appelle et puis on s'encourage l'un l'autre sur la pause déjeuner. C'est tout simple. Mais c'est une façon de s'intéresser à un défi que quelqu'un nous a partagé et d'agir, de faire quelque chose pour développer le lien communautaire. Donc demander des nouvelles et proposer du soutien donc, quand notre aide matérielle est pertinente. Comme je dis, ça peut être un petit quelque chose. Passer un coup de fil, c'est aussi une aide concrète. Mais il y a aussi parfois des gens dans la presse qui passent par des saisons particulièrement difficiles, des crises. Et dans ces moments-là, que la crise soit une crise au niveau de notre santé, au niveau des finances, au niveau des relations, soyons en tant que braise les premiers à nous mobiliser et à mobiliser peut-être l'aide d'autres personnes au sein de l'Église quand le défi de la personne, quand la crise que traverse cette personne dépasse ce qu'on arrive à faire en tant que braise. Imaginez une église dans laquelle chaque personne fait partie d'une communauté comme celle-là. Est-ce que d'un seul coup, cette description d'acte 2 nous semble un petit peu moins inaccessible, un petit peu moins utopique, un petit peu plus jouable? Mais ça passe par le fait de se voir comme des membres d'une communauté plutôt que de se voir comme un individu. En fait, plus que ça, appartenir à un groupe comme celui-là passe par une décision préalable que chacun d'entre nous doit prendre. Une décision de quoi ? Une décision qu'aujourd'hui, 7 janvier 2024, je décide de mettre à mort mon individualisme. Je veux voir ce fléau mourir dans ma vie. Et en ayant pris cette décision, c'est le fait de vivre la vie communautaire qui est la chose qui va tuer l'individualisme chez moi. C'est fou comment des décisions concrètes de ce que je fais avec mon corps, concrètement, a un effet sur mon esprit. Une décision comme « je vais aller à la réunion de ma braise ce soir, même si ça peut avoir un côté galère, à cause de la météo, ou à cause des transports, ou à cause de la fatigue, ou d'autres choses comme ça. » Ou bien « je vais me déplacer pour rendre service à ce membre de ma braise, ou je vais prendre mon téléphone. » C'est que des choses que je fais avec mon corps, en fait. Mais ce que je fais avec mon corps a un impact et a une transformation sur mon cœur. Ce que je fais avec mon corps assèche les élans individualistes. Lorsque je mets mes membres au service de la vie communautaire, j'assèche mon individualisme et je nourris mon aspiration à la vie communautaire. Et enfin, mon troisième point, comment faire une communauté à laquelle on appartient, partager mutualité. Et enfin, assiduité. L'assiduité à ma braise fait partie d'une des manières par lesquelles je tue l'individualisme pour devenir plus conforme à Jésus et pour aider d'autres à devenir plus conformes à Jésus. Parce que la réalité, c'est que oui, je reçois quand je vais dans une braise, mais je ne suis pas là en tant que consumériste. Je suis là pour apporter aussi et pas seulement pour recevoir. Donc je suis attendu pour devenir plus conforme à Jésus et pour aider d'autres à devenir plus conformes à Jésus. Et c'est vraiment ça notre vision en tant qu'Église, une communauté d'hommes et de femmes qui deviennent de plus en plus comme Christ dans nos désirs, notre mentalité, nos actes concrets. Et donc ce texte d'Actes 2, verset 42, nous parle du fait qu'il persévérait. Ça demande de la persévérance. Hein, parfois, ça va aller contre tous nos désirs naturels, mais je persévère à être assidu. Persévère notamment dans la présence aux rencontres du groupe. On voit ça pour la rencontre au temple, pour les premiers chrétiens, dans les maisons, pour les communautés plus petites. Certaines traductions, d'ailleurs, traduisent le verset 46. « Ils étaient tous ensemble, chaque jour, assidus. » Et donc c'est ça le modèle que nous donne la Bible. Et c'est aussi mon expérience personnelle. Ça fait maintenant 15 ans que je fais partie d'églises qui fonctionnent avec des braises. 15 ans que je fais avec des groupes de maisons. Et donc j'ai un peu tout vu, tout connu. Certaines se réunissaient chaque semaine, d'autres se réunissaient toutes les deux semaines. Certaines en petits groupes, certaines dans ces petits groupes étaient que des chrétiens matures, dans d'autres c'était plus un mélange de chrétiens un peu bien rangés et d'autres un peu plus difficiles. Dans certains groupes on mangeait ensemble, dans d'autres non. Dans certains groupes on prenait des temps de louange, dans d'autres non. Dans certains groupes on étudiait la Bible, dans d'autres on étudiait un livre chrétien, dans d'autres on étudiait la prédication de ce qu'on avait vu le dimanche précédent. Bref, j'ai vu plein de cas de figure. Mais avec Rebecca, on a remarqué une chose. Le facteur qui faisait que ces groupes marchaient bien ou ne marchaient pas bien dépendait d'une chose qui n'a rien à voir avec ces autres choses que je viens de décrire, bien que toutes ces décisions sont importantes et bonnes, et il faut se les poser, il faut prendre des décisions sages, etc. Mais le facteur qui faisait qu'on se réunit chaque semaine ou toutes les deux semaines, ou bien qu'on mange ensemble ou qu'on ne mange pas ensemble, ou bien qu'on étudie la Bible ou qu'on étudie un livre chrétien ou quoi, le facteur qui faisait que certains groupes marchaient bien et d'autres pas, c'était que tous les groupes, sans exception, où les gens étaient là à toutes les réunions ou presque, marchaient bien. Et tous les groupes, sans exception, où les gens venaient une fois sur deux ou une fois sur trois, ne marchaient pas bien, en fait. On n'apprenait pas à se connaître, on tissait pas des relations, la confiance et l'ouverture entre nous ne grandissaient pas, et en fait, c'était presque, ça valait à peine la peine de le faire. Et donc, je dis ça, en fait, comme un appel à nous tous. Je veux faire un appel ce matin. Pour la plupart d'entre nous, la différence entre la présence dans les rencontres de ma braise et mon absence, c'est une question de priorité. On a tous un ordre de priorité dans nos vies. Il peut être conscientisé, il peut ne pas l'être. Il peut être conscient ou il peut ne pas l'être. Il peut être imposé par d'autres ou choisi par nous. Mais l'appel que je lance à chaque personne ici est celui-ci. Si tu veux grandir dans ta relation avec Jésus, alors cet outil qu'on appelle les braises est juste énorme, irremplaçable, et il nous permet de vivre notre relation spirituelle avec l'encouragement et l'apport d'autres personnes. Il nous permet de faire corps et de témoigner de notre foi ensemble. Il nous place surtout en communauté et il tue l'individualisme en nous. Encore Stanley Auerwas, j'ai bientôt fini. Nous allons devoir sortir de l'habitude de vivre l'Église de manière telle que les gens peuvent perpétuer cette croyance selon laquelle on peut être chrétien tout en demeurant un inconnu. Donc mon appel à toute l'Église, à Fireplace, est celui-ci. Décide aujourd'hui de te donner les moyens de ressembler plus à Jésus. Et comme partie de cette résolution, de cette décision, attache-toi à une braise si ce n'est pas déjà le cas. Et si tu es déjà attaché à une braise, alors fais-en une priorité. Si d'autres personnes te sollicitent un soir où ta braise se réunit, eh ben, dis à ces personnes que tu es occupé, parce que c'est le cas, si c'est la braise qu'on met en priorité. Si le soir de la semaine où ta braise ou ton groupe se réunit ne marche pas pour toi en règle générale, alors demande au groupe s'il n'y a pas un autre soir dans la semaine où on peut se réunir. C'est très possible que le groupe, qu'en groupe on puisse s'arranger. Ou bien même pense à changer de groupe, aller dans un groupe où c'est plausible pour toi d'y être chaque semaine. Il n'y a aucun souci avec ça. À la fin de ce message, on va, ou après le culte plutôt, on va afficher à l'écran les différentes braises, où est-ce qu'elles se réunissent et à quel jour de la semaine ils se réunissent. Si vous n'êtes pas déjà dans une braise, prenez ça en photo, priez dessus, considérez et rejoignez une braise cette semaine. Donc, répondons. Est-ce que je suis prêt à m'engager dans une démarche de vie communautaire ? La profondeur de notre discipulat en dépend fortement. Est-ce que je suis prêt à vivre ma marche avec Jésus aux côtés d'autres personnes qui sont différentes de moi, mais à entrer dans une démarche de partage et de mutualité, une pratique d'assiduité lorsque le groupe se réunit ? Je suis vraiment frileux de faire des promesses dans le vide, mais mon expérience et le modèle des Écritures me poussent à dire que ce genre de vie de disciple est source de croissance, source de joie et source d'encouragement spirituel. Et je ne suis pas le seul à le dire. Une dernière citation, peut-être Nikki, tu peux revenir pour un dernier chant. On a le temps pour un dernier chant ? Ouais. Ronald Rollheiser nous dit « Notre époque divorce la spiritualité et l'Église. Nous voulons Dieu, mais à notre manière. Nous aspirons à une vie qui ne se confronte pas à celle des autres. Mais sans l'Église, ce que nous avons est en fait une fantaisie privée plutôt qu'une foi réelle. L'Église est là pour nous aider à avoir une vie qui n'est pas juste une sorte de foi désincarnée, uniquement intellectuelle ou une spiritualité qui ne se manifeste pas dans le concret de ma vie. Une spiritualité qui ne se manifeste pas dans le concret de ma vie est une fausse spiritualité, une fantaisie privée, comme le dit Ronald Rollheiser, plutôt qu'une vraie foi, celle qui ressemble à celle de la Bible qui se manifeste dans le concret. Amen.